Bonsoir et bienvenue dans cette émission. La déclaration du président de la République, Félix Tshisekedi, relative à la tenue d'un dialogue national et inclusif en RDC, continue de susciter des réactions aussi bien dans la classe politique que dans la société civile. Alors que le pouvoir prône un forum souverain et institutionnel, l'opposition et une partie de la société civile, dont la CENCO, dénonce un format verrouillé. Si ce dialogue devait se tenir pour le chef de l'État, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent le pacte national. Félix Tshisekedi a également estimé que cette rencontre ne saurait être invoquée pour relativiser une agression ni pour diluer les responsabilités établies. Pourtant, certains dirigeants de l'AFC-M23, mais aussi l'ancien président Joseph Kabila, sont condamnés par la justice congolaise. Pour les partis politiques Ensemble de Moïse Katumbi, le dialogue ne peut être piloté par les institutions actuelles dont ils contestent la légitimité. Ensemble pour la République exige un médiateur neutre et un ordre du jour axé sur les réformes électorales et la fin du harcèlement politique. Si donc pour Moïse Katumbi, les formats proposés par le président Tshisekedi inspirent méfiance, Martin Fayoulou de son côté craint un monologue déguisé. Quelle analyse faire des différentes réactions autour de l'organisation d'un dialogue intercongolais tel que le conçoit le président Félix Tshisekedi? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici au studio Amissi Makutano, il est député national et président de la Ligue des Jeunes de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Il est élu de la ville de Kinshasa. Bonsoir honorable Amissi Makutano.
Bonsoir et merci pour l'invitation.
En ligne, Hervé Diakese, il est avocat, il est porte-parole du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Bonsoir Hervé Diakese.
Bonsoir Radio Capi et bonsoir à vous sur le plateau.
Merci. Modeste Moningaba, lui également, il est en ligne, il est analyste politique et membre de la société civile. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la bonne gouvernance. Bonsoir Modeste Moningaba.
Bonsoir, monsieur le
président. Merci une fois de plus. Bienvenue dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous l'avons dit, la déclaration du président de la République, Félix Tshisekedi, relative à la tenue d'un dialogue national inclusif en RDC, continue de susciter des réactions aussi bien, n'est-ce pas, dans la classe politique que dans la société civile. Alors que le pouvoir prône un forum souverain et institutionnel, l'opposition et une partie de la société civile, dont la CENCO, dénoncent un format verrouillé. Le point avec Benjamin Moudoumbi.
L'actualité politique en République démocratique du Congo est électrisée par les réactions en chaîne consécutives aux annonces du chef de l'État sur les dialogues nationaux. Alors que le pouvoir prône un forum souverain et institutionnel, l'opposition à une partie de la société civile dont la CENCO dénonce un format verrouillé. Face aux défis sécuritaires persistants et aux tensions politiques internes, le président Félix Tshisekedi s'est dit favorable à la tenue d'un dialogue national et inclusif en RDC. C'était lors de la cérémonie d'échange des vœux avec les ambassadeurs et diplomates accrédités en RDC tenue le samedi 31 janvier à Kinshasa. Pour le chef de l'État, si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent le pacte national. Cette déclaration faite devant le corps diplomatique accrédité relance les débats sur la cohésion nationale et l'avenir politique du pays. Réunis en mini-conclave, les cofondateurs du mouvement politique Sauvons la RDC ont dénoncé lundi 2 février 2026 à Bruxelles les refus opposés par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'organisation d'un dialogue politique inclusif tel que proposé par la coalition CENCO-SCC. Ils considèrent que l'initiative portée par la CENCO et l'SCC constitue une opportunité majeure pour sortir le pays de l'impasse actuelle. À ce titre, il appelle les autorités congolaises à considérer leur position position et à privilégier une approche politique fondée sur l'écoute, l'inclusion et le consensus national. Pour Jean-Marc Kaboul, il est politiquement incorrect qu'un pouvoir contesté puisse se choisir ses interlocuteurs, fixer les règles des jeux et les lignes rouges à ne pas franchir. Ces prises de position s'inscrivent dans une série de réactions critiques issues des forces politiques et citoyennes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, qui plaident pour un dialogue inclusif comme voie privilégiée vers une paix durable et une gouvernance apaisée en République démocratique du Congo.
Merci à vous, Benjamin Moudoumbi. Hervé Diakessé, je rappelle que vous êtes avocat, vous êtes porte-parole du parti Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Qu'est-ce qui vous choque dans cette prise de position du chef de l'État au sujet de la tenue, n'est-ce pas, d'un dialogue national inclusif en RDC?
Nous rappelons d'abord que Ensemble pour la République est parmi les premières forces de l'opposition qui ont toujours soutenu la tenue d'un dialogue. Mais c'est le contenu du concept dialogue et sa compréhension univoque par le président Tshisekedi et sa famille politique qui nous choque. Lors de notre dernier communiqué rendu public, nous avons relevé des incohérences et surtout des obstacles à ce que le président Tshisekedi considère comme dialogue. Premièrement, le président Tshisekedi, au lieu de se limiter à être une des parties prenantes au dialogue, s'érige en autorité indépendante au-dessus du cadre et se charge de fixer l'ordre du jour du dialogue, les lignes rouges du dialogue et même de déterminer la qualité de ceux qui doivent prendre part ou non au dialogue, sans compter de récuser la facilitation autour de laquelle tout le monde s'est mis d'accord au regard de sa neutralité, de son impartialité et de son indépendance.
Et par rapport à ces points, Maître Hervé Diakessé, est-ce que le chef de l'État n'a pas raison du fait qu'il a les mandats du peuple? Est-ce qu'il n'a pas raison de prendre une telle position?
Déjà, la question du mandat du peuple est l'une des questions problématiques de ces dialogues. L'une des causes des conflits que nous connaissons sont liées à son illégitimité. Il est issu d'une tricherie en 2018, du fait d'un compromis qu'ils avaient eu avec le président Kabila et que Corneille Nangaa a révélé. Il est issu d'une tricherie en récidive en 2023, où pendant 7 jours, ils ont concocté les plus grands résultats chaotiques de l'histoire des élections dans le monde. Donc permettez-moi que je puisse d'abord finir à développer les éléments qui sont importants pour la population pour réaliser les incohérences de la position du président Tshisekedi. Donc sur ce premier point, il oublie que lui-même a été président de la délégation de l'opposition, donc le RASOP à l'époque, qui a participé au dialogue à la CENCO, à égalité avec les autres composantes politiques, y compris celle du camp du président Kabila. Il oublie qu'Étienne Tshisekedi a participé à égalité avec toutes les composantes et entités au dialogue intercongolais. Ce qui lui a même permis de créer l'alliance pour la sauvegarde du dialogue à San City avec les RCD, qui était une composante belligérante, citée dans des graves violations des droits de l'homme, y compris des massacres. Et ils sont partis au Rwanda, qui était cité parmi les agresseurs. Étienne Tshisekedi y a rencontré Kagame. Et il est parti à Goma, où les troupes lui ont présenté les honneurs. Au nom de la paix, au nom de la solution du dialogue. L'autre incohérence, toujours le même président Tshisekedi, donc prétend que tous ceux qui ont des condamnations, tous ceux qui sont liés à l'agression, tout ce que lui estime n'est pas lui convenir, ne doivent pas participer au dialogue. Mais il veut en réalité un monologue de l'union sacrée. On dialogue avec ses adversaires. On ne dialogue qu'avec ses adversaires, pas avec son propre camp. La preuve, c'est que lui avait dialogué avec Kabila en tant qu'opposant. Ils étaient adversaires politiques. Et les belligérants, nous avons dialogué avec Hassan City. L'UDPS a même fait une alliance avec des belligérants qui étaient les RCD, dont les soutiens par le Rwanda étaient patents et incontestés, au nom de la paix. Le président Tshisekedi va plus loin. Il décide de fixer les lieux du dialogue et il dit que ça ne doit avoir lieu que sur les territoires nationaux. Mais lui-même négocie à Doha. Je ne vous parle même pas du dialogue de San City où l'UDPS a participé à l'étranger, ça que ça lui pose problème. Lui-même a négocié avec Kagame à Washington, sans que ça lui pose problème. Quand l'UDPS négocie avec Joseph Kabila, ils ont négocié à Addis Abeba, ils ont négocié à Ibiza. Ça ne leur a jamais posé problème. Donc tout à coup, le président se réveille et commence à fixer des préalables là où l'opposant Tshisekedi, de père en fils, n'ont jamais trouvé cette question comme problématique. Enfin, et je reviendrai quand il faudra déterminer ces questions, aujourd'hui la synchro est problématique, mais la même devant laquelle Félix Tshisekedi est parti comme président de l'opposition pour accepter son impartialité, son statut de médiateur. En ce moment-là, ça ne posait strictement aucun problème. Et enfin, il décide que ce sera dans le cadre des institutions, dans le cadre de la Constitution. Sous-entendu, parce que lui est notamment à la tête de ces institutions. Mais ces institutions lui-même les dirige par fraude électorale, avec un parlement stalinien où il a à lui tout seul plus de 480 députés sur 500, un Sénat où il a lui-même plus d'une centaine de sénateurs contre 3 sénateurs de l'opposition, ne parlons pas des provinces. Mais ça, il faut ça. Les institutions, mais elles sont illégitimes, ça prête à rire. Et il dit oui, il faut aussi que ce soit dans le cadre de cette constitution. Mais cette constitution qu'il veut changer, cette constitution que sa famille politique chaque jour se réveille pour dire qu'elle a été inspirée du diable, lui-même avait prétendu que cette constitution a des dispositions qui l'autorisent à vendre le pays. Quand il est parti signer les accords de Washington, quelles dispositions de la constitution l'avait poussé? Donc, tout ça démontre qu'en réalité, les positions et les postures du président Tshisekedi sont une peur d'avoir une rencontre réellement patriotique, fondée sur la vérité, fondée sur le désir de trouver des solutions pérennes, fondée sur la volonté d'apaiser les climats, de décrisper la situation, pour que cesse cette guerre qui est totalement injuste, où nos troupes meurent, où nos populations civiles meurent, et qui hypothèque en réalité le développement de notre pays.
Voilà, Hervé de la question, vous fondez votre argumentaire sur des faits passés, dans un contexte donné. Vous pensez que le contexte dans lequel ces faits se sont déroulés à l'époque, il est similaire à celui dans lequel on est aujourd'hui?
Je trouve même que le contexte d'aujourd'hui est de très loin plus facile à résoudre. Parce que si nous prenons le contexte de Sun City, nous étions dans un pays avec plus de 4 administrations relevant des autorités rebelles qui ne dépendaient même pas de Kinshasa, avec des soutiens de plusieurs pays étrangers. Vous aviez les RCD avec le Rwanda, vous avez les MC avec l'Ouganda, vous aviez les Maïmaï autonomes, et vous aviez des RCDN, RCDKML, donc plusieurs entités rebelles. Vous aviez plusieurs puissances étrangères sur le territoire national. Vous aviez l'Ouganda, le Rwanda, le Zimbabwe, l'Angola, la Namibie, le Tchad. Aujourd'hui, le régime est en face d'une rébellion précise qui est la FCM-23. Le régime est en face d'un adversaire étranger précis qu'il a identifié, c'est le Rwanda. Lui-même a pour allié l'Ouganda et les Wazalendo. Et autour, vous avez l'opposition politique non armée et vous avez la société civile. Donc on ne va pas réinventer la roue.
Voilà, on ne va pas réinventer.
C'est la volonté personnelle du président Tshisekedi.
On ne va pas réinventer la roue.
Qui peut soit permettre de décanter la situation ou alors de rester dans la situation où le sang est en train de couler.
On ne va pas réinventer la roue comme vous le dites. On ne va pas réinventer la roue comme vous le dites. Et vous avez évoqué Sun City. Justement, les camps présidentiels estiment que Sun City n'a pas cassé les cycles des violences. Il a plutôt, n'est-ce pas, mis en place des conditions des nouveaux conflits. C'est pourquoi il ne faut pas se référer à Sun City.
Ah ben non, justement. C'est quand le président Tshisekedi a voulu démanteler le consensus républicain tiré de Sun City, que tout ceci s'est effondré sur sa tête. Il en est la cause. Quand on lui avait dit de ne pas démanteler l'architecture constitutionnelle, il nous a dit qui pourra l'en empêcher. Mais il a oublié que les gens sont arrivés à Sun City parce qu'ils avaient constaté 3 choses capitales que je veux vous relever à nouveau.
Rapidement.
Qui sont dans les préambules de notre Constitution.
Rapidement.
Premièrement, c'est l'injustice dans l'accès au pouvoir par la force, la fraude, la tricherie ou son exercice par la violence, l'intolérance qui frustre les peuples congolais et oblige certains à prendre les armes. Dont acte. Des deux, le pouvoir ne peut être qu'issu des urnes, par la volonté du peuple. Donc, marcher sur la volonté du peuple, en violant de manière flagrante son expression par les suffrages universels, ouvre la brèche aux révoltes. Enfin, la mauvaise gouvernance, la mauvaise répartition des richesses, l'accaparement des ressources Merci. Naturelles par un individu, un groupe d'individus ou son camp politique est toujours à la base
Merci, on a
de cette situation,
on a compris.
Y compris l'impunité.
Merci, on a compris, on vous garde encore dans cette émission. Ami Sima Koutano, vous êtes député national et président de la Ligue des Jeunes de l'UDPS, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Vous êtes élu de la ville de Kinshasa. Comment vous réagissez aux craintes et aux critiques, n'est-ce pas, que viennent des maîtres, les porte-paroles d'Ensemble pour la République, Hervé Diakhessé, à cette prise de position du chef de l'État sur la tenue d'un dialogue national inclusif?
Merci beaucoup, Matt, de m'avoir accordé la parole. Deuxièmement, je tiens à vous remercier parce que vous avez fait un rappel de taille à votre invité, l'ancien candidat de la CENI, aujourd'hui présenté comme le porte-parole de l'ensemble.
Il est le porte-parole officiel de l'ensemble.
Officiel de l'ensemble, ok. Mais personnellement, je suis en train de m'étonner de voir si M. Diakhessé vit sur la planète Terre ou il est ailleurs. Le fait de nous ramener dans les histoires qui sont passées, bien sûr, On ne peut que construire l'avenir avec les passés aussi. Mais ce que je dois rappeler, que le dire du président de la République, à ce qui concerne la tenue d'un dialogue inclusif dans notre pays, si je ne me contredis pas, ça a été toujours le vœu de plusieurs, même des diakès qui vous parlent aujourd'hui. Je ne sais pas, moi, les français utilisés par le président, c'est ce qui fait mal pour la compréhension, ou bien c'est une mauvaise foi.
Vous voulez dire quoi?
Je vais dire ceci. Le président les avait rencontrés par rapport à leur volonté de pouvoir tenir un dialogue qui va rassembler tout le monde. Mais n'oublions pas, même la Constitution et la Bible reconnaissent que la vie humaine étant sacrée, et surtout si nous revenons sur tous les dialogues qui se sont organisés dans notre pays, vous comprendrez que non, ce sont les mêmes méthodes, le même système, c'est-à-dire les gens peuvent se rebeller. Et in fine, ils savent qu'ils vont se retrouver tout autour d'une table pour pouvoir tirer les dividendes. Alors, ceux qui ont utilisé les armes, c'est-à-dire la loi la plus forte, sera servie, mais les victimes vont gagner quoi par rapport à ça? Et le président de la République ne pouvait plus revenir dans le même chose. Il a dit, il y a eu des dialogues qui se sont organisés en Afrique du Sud et partout dans le pays africain. Mais nous-mêmes, en tant que Congolais, nous avons des cadres. Nous avons quand même de l'espace où on peut s'organiser, on peut se parler, parce qu'on est aussi mature. Mais malheureusement, l'infiltration et surtout la traîtrise a élu domicile dans notre monde politique, ici dans notre pays. Les gens pense que trahir la République, être du côté des gens qui travaillent pour l'étranger, surtout notre voisin qui se croit être un Hitler d'Afrique.
C'est qui?
C'est le Rwanda qui nous agresse plus de 3 décennies. Toujours dans le même méthode, le même système, avec la trahison interne, les gens qui se liguent contre leur propre pays. Parce qu'ici, M. Maté, nous devons rappeler les dés que nous assistons, le pillage que nous sommes en train de voir, la violence, c'est sur le sol congolais, ça ne se passe pas au Rwanda. Nos amis d'ensemble ont le privilège de pouvoir parler tout ce qu'ils veulent, mais nous, en tant que des patriotes, nous comprenons que cette complicité ne pouvait pas avoir lieu du fait que ce sont les Congolais et les Congos qui souffrent. Nous, étant les partisans de paix, les patriotes, au-devant de nous, le président de la République, qui tient mordicus pour défendre, premièrement, l'intégrité du territoire national, deuxièmement, défendre le Congo et les Congolais, nous sommes très différents avec les gens qui se permettent, justement, de dire tout ce qu'ils pensent, justement, pour nuire les régimes.
Amis Makutano, ce serait l'idéal, n'est-ce pas, d'organiser ces dialogues sur les sols congolais, mais dans les contextes du moment où vous avez une partie de l'opposition qui n'est pas au pays, qui est en exil, et parmi ces opposants, il y en a qui sont, n'est-ce pas, poursuivis par la justice, vous pensez qu'il serait réaliste d'organiser un dialogue sur les territoires congolais si on ne donne pas les garanties de sécurité à ces gens qui sont poursuivis par la justice?
Merci beaucoup pour la question, mais je dois rappeler que les dialogues n'empêchent pas la justice de pouvoir faire son travail. Dans d'autres cieux, dans d'autres pays, quand le pays est attaqué, c'est tout le monde qui se met sur la table justement pour défendre premièrement le pays, et le reste viendra après. Mais ici, chez nous, ce qui se passe, parce que j'ai suivi votre invité quand il parlait de la gestion, une gestion chaotique. Et rappelons-nous d'abord de leur gestion d'une seule petite province dans notre pays, même si grande qu'elle est, les Katanga. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la population katangaise? Qu'est-ce qu'ils ont construit. Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme des nouveautés?
Vous faites allusion à l'époque où Katumbi était gouverneur du Katanga?
Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont enrichis à eux-mêmes. Ils ont fait tomber même en faillite une entreprise de l'État au détriment des Hakuna Matata. La SNCC ne fonctionnait plus. Mais il a fallu l'avènement de Félix Tshisekedi pour remettre les choses sur les rails. Aujourd'hui, il y a des locomotives qui entrent et il y a un développement qui se constate. C'est bien bon de critiquer, mais ce que je peux retenir dans la volonté de nos amis, c'est la volonté d'Animus Nikeni. Ils veulent nuire les régimes.
Ils veulent nuire.
Mais les durs du président, dans son speech, à ce qui concerne les dialogues qui doivent être organisés par les institutions légalement établies, c'est tout à fait légitime. Lui, il était candidat à la CENI, mais il n'a pas pu. Alors, s'il était à la tête de la CENI, on pouvait assister à des spectacles. Parce qu'il a un penchant. Quand on réfléchit pour son pays, par rapport au contexte, et surtout la réalité que nous traversons, je crois que le bonheur ou le développement du Congo ne viendra jamais d'ailleurs. C'est notre détermination en tant que peuple, derrière nos autorités, derrière le président de la République, qui porte une vision et qui nous parle. Et nous tous, nous avons le devoir, et surtout quand vous faites allusion aux opposants, ils ont leurs revendications. Est-ce qu'on leur dit que vous venez au dialogue, vous n'aurez pas un point de vue à émettre? Non, vous viendrez avec vos carnets, les exprimer là où il y a aussi les autres, ensemble, dans un débat, on va trouver une solution qui sera une solution congolaise.
Voilà, vous avez dit qu'à travers cette démarche du chef de l'État, on poursuit notamment à sauver l'intégrité territoriale du pays. Mais entre-temps, lorsque le chef de l'État parle de ces dialogues, tel que lui, il les prône, il dit qu'il va se faire sans les personnes qui ont pris les armes, c'est-à-dire des personnes qui, justement, dérangent cette intégrité territoriale du pays. Alors, comment vous pensez rétablir l'intégrité territoriale du pays lorsque vous n'associez pas ceux-là qui, justement, ont pris les armes contre le pays?
Ce que je dois rappeler, M. Matt,
logiquement,
que le régime de Tshisekedi n'est pas là pour donner des chèques en blanc aux gens qui ont fait couler le sang des Congolais. Non. Autre temps, autre mers. Les gens qui ont pris les armes, qui ont tué les Congolais, moi je ne sais pas moi les Rwandais qui sont tués là-bas, à part le militaire, hein, qui ont traversé nos frontières et qui sont venus se battre pour nous envahir. Mais la population, elle est calme. Mais c'est notre population qui est malmenée par l'armée rwandaise, sous la complicité de certains d'entre nous. Maintenant, parce qu'on veut avoir le dialogue, il faut accepter que ces gens-là qui font couler le sang des Congolais, qu'ils viennent et qu'ils apportent même le mensonge, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de tenir le discours rwandais. Vous allez suivre ce que dit Kagame, c'est ce que dit Nanga, c'est ce qui va être dit par Kabila et les autres. Nous disons, c'est temps heureux voulu. Le président a donné une ligne à suivre et nous tous, nous sommes censés de pouvoir suivre cette ligne parce que c'est le Congo qui va gagner.
Alors comment vous réagissez à la position de la CENCO à travers Monseigneur Donatien Cholet qui a estimé que les souhaits exprimés par les chefs de l'État est une position de base qui pourrait être harmonisée avec les positions opposées dans un pré-dialogue avant de mettre en place les conditions d'un dialogue proprement dit?
Personnellement, je sais qu'on appelle l'abbé Cholet. Le rôle de l'Église, c'est de prêcher d'abord la parole.
Monseigneur Cholet.
Ouais, c'est de prêcher d'abord la parole. Mais ce que fait M. Cholet, je ne sais pas. Si c'est un prélat politique ou quoi, parce que je ne l'ai jamais vu là où il célèbre une messe. Je ne l'ai jamais vu. Je le vois seulement dans des communiqués politiques. Et par ça, je lui accorde cette grâce de continuer à faire des déclarations politiques. Et nous, en tant que politiques, nous allons les traiter comme tels.
Merci Modeste Mbondigaba, vous êtes analyste politique et membre de la société civile, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur la bonne gouvernance. Et comment vous analysez les différentes réactions, n'est-ce pas, à la position du président Félix Tshisekedi sur la tenue d'un dialogue national inclusif en RDC?
Merci pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur cette importante question. Relative au dialogue qui doit absolument se tenir entre les fils de ce pays, parce que le pays est en difficulté, en grande difficulté. Je suis de ceux qui, déjà, en 2015, alors que c'est le président Kabila qui était au pouvoir, et qu'il se rendait compte qu'il n'allait pas respecter les échéances constitutionnelles pour respecter le calendrier électoral, et qui appelait déjà au dialogue à ce moment-là, je suis de ceux qui avaient immédiatement pris la balle au bon pour dire oui, d'accord pour le dialogue, mais pas uniquement pour s'entendre sur le calendrier électoral, avec en prime le partage de postes, etc. Et nous, avec d'autres amis, nous avons dit, c'est ça l'occasion d'aborder enfin les questions de fond qui ont toujours été éludées depuis le 30 juin 1960. Parce que le Congo a pris un mauvais départ déjà à ce moment-là. Et lorsque nous avons la possibilité de nous retrouver entre nous pour parler de l'avenir du Congo, nous devons toujours saisir cette opportunité. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on se rend compte que le dialogue de Kabila en 2015-2016, qui a conduit à ce qui s'est avec les accords de la CENCO et tout ça, n'a pas réglé les problèmes de fond. C'est pour cela que nous avons applaudi lorsque nous avons vu que le duo CENCO-SCC a prévu une séquence où on doit aborder les problèmes de fond et donc aller à la recherche des causes profondes qui font que le Congo ne prend pas la bonne direction, quoi qu'on dise. Donc nous sommes pour un vrai dialogue qui permette d'aborder les questions de fond, qui font qu'un grand Congo, un grand pays comme le Congo, se retrouve un peu la risée du monde. Ce n'est pas normal qu'un pays comme le Congo puisse se retrouver là où il est avec un pays voisin qui était en fait une province du Congo à l'époque coloniale. Ce n'est pas possible que ce petit pays-là puisse nous malmener comme ça si nous sommes réellement nous organisés et debout.
Voilà, parce que vous êtes...
Donc, le problème du Congo, c'est ça.
Parce que vous êtes...
Le Congo n'est pas debout.
Voilà, vous êtes d'avis qu'il faut organiser un dialogue où on évoque les problèmes de fond. Quand vous suivez le chef de l'État dans ce qu'il dit au sujet du dialogue, hein, selon lui, vous pensez que ce qu'il propose, ce qu'il prône est de nature à régler les problèmes de fond?
Malheureusement, non, parce que justement, on ne peut pas aborder les questions de fond si déjà au niveau du format, on exclut des acteurs. Il ne faut pas qu'il y ait des acteurs qui soient dehors. Tous les acteurs importants doivent être là pour entendre, pour se dire les choses en face. Parce que tout le monde a certainement un point de vue à donner sur cette déliquescence du Congo en 65 ans d'indépendance.
Voilà, vous
avez
dit...
Ce n'est pas une question...
Oui,
on peut aborder, si on commence à exclure certains acteurs parce que les autres vont dire, mais nous on n'était pas là, donc ça ne nous concerne pas.
Oui, ben vous avez suivi la position du parti au pouvoir qui estime que ces dialogues auxquels vous faites allusion, où on doit, n'est-ce pas, associer tout le monde, c'est des dialogues qui ont été organisés dans ces pays plusieurs fois, mais ça ne nous a jamais aidé, n'est-ce pas, à régler les problèmes de fond auxquels vous faites allusion.
Parce que justement, ces dialogues qui ont été organisés jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais abordé les questions de fond. C'est ça le plus important. Jamais abordé les questions de fond.
Quels sont ces problèmes de fond qui n'ont jamais été... Quels sont ces problèmes de fond...
Pour calmer les belligérants, tout le monde devait avoir un poste, et c'est ce qui s'est fait à San City. Et depuis lors, ça n'a jamais été au fond des choses.
Et vous pensez qu'à San City, comme dans les dialogues de la Saint-Sylvestre, on n'a jamais évoqué les questions qui semblent diviser les Congolais depuis plusieurs années?
Jamais. Mais je peux l'affirmer parce que, comme vous l'avez dit, ça fait 35 ans que je réfléchis sur ces questions-là. Les questions de fond pour sortir le Congo du marasme actuel, c'est naturellement des questions qui concernent la gouvernance. La gouvernance, si elle est efficace, si elle est performante, il ne peut pas y avoir de rébellion.
Voilà.
Ça, c'est clair.
Et comment vous comprenez la réaction de la CENCO à travers Mgr Cholet, qui pense qu'il faille organiser un pré-dialogue pour harmoniser les points de vue avant la tenue d'un dialogue proprement dit?
Mais ça ne peut être que... Ça, c'est la voie de la sagesse, parce qu'il faut absolument arriver à organiser le vrai dialogue dont je parle. Donc, tout doit être mis en œuvre pour qu'on y arrive. Or, comme aujourd'hui, il y a encore des positions éloignées les unes des autres, il faut continuer à travailler pour harmoniser les positions de manière à ce qu'on arrive à effectivement organiser un dialogue inclusif et réellement consacré à l'examen des problèmes de fond qui font que le Congo ne décolle pas correctement.
Merci. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Maître Hervé Diakessé, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis le Kasaï central.
Corneille Mumbabine à Kananga au Kasaï central. Comment l'Assemblée pour la République peut-elle contester la légitimité des institutions de la République au moment où elle a participé aux élections ici de ces institutions? Comment le président de la République peut-elle accepter la médiation de la CENCO au moment où ses membres ont montré leur position qui s'appuie derrière les agresseurs? Il faut dialoguer pour libérer l'agression et non pour le partage des pouvoirs, et 2 ans après, l'agression revient encore.
Maître Hervé Diakessé.
Merci beaucoup. Je vais répondre à l'auditeur. Et aussi, si vous le permettez, revenir sur 2 points qui ont concerné les affirmations de l'honorable Makuta à mon encontre. Alors, premièrement, Ensemble pour la République a été extrêmement cohérent sur les chaos électoraux. Nous ne l'avons jamais cautionné. Mais nous avions dit que nous nous comporterions néanmoins en opposition républicaine. Nous avions démontré, et personne ne peut les nier, que ces élections ont été un chaos inacceptable. Aucune élection au monde n'a fait 7 jours. Aucune. Même dans les dictatures. Même sous les maréchal Mobutu. Dans aucune élection, toutes les machines à voter ont été retrouvées dans les camps du président. Et d'ailleurs, la CENI avait déféré le dossier au parquet général, sans suite. La même CENI a reconnu qu'il y a eu fraude, mais en prétendant que cette fraude-là ne concernait pas le président de la République, alors qu'on a voté tous les mêmes, avec les mêmes machines et les mêmes limites. Donc ça ne va pas. Mais Ensemble pour la République, malgré ça, avait accepté de jouer le rôle d'opposition républicaine parce que ce pays est à nous tous. Maintenant, vous estimez qu'il faille faire d'abord front autour du président de la République contre l'agression. Mais on ne vient pas faire front de manière aveugle, moutonnière, sans fanatique, sans poser les vraies questions. Aujourd'hui, par exemple, le Rwanda est désigné comme l'agresseur en soutenant les M23 ou en étant derrière les M23. Mais les M23 avaient été démantelés par le régime Kabila. Ils avaient fui un groupe en Ouganda et un groupe au Rwanda. C'est ce régime qui a fait revenir les M23 à l'hôtel du fleuve. Quelque temps après, les M23 a repris les armes en prenant Bounagana. Or, Bounagana n'a aucune continuité territoriale avec le Rwanda. Mais il en a avec l'Ouganda. Et ce régime n'aime jamais citer l'Ouganda comme agresseur. Et nous n'avons pas le droit de poser cette question, sinon on nous dit que vous êtes pro-Rwanda, vous ne citez pas le Rwanda. Mais vous ne pouvez pas demander de citer l'Ouganda. Ça ne se passe pas comme ça entre responsables dans un pays. Donc quand nous devons tous nous mettre d'accord, nous devons avoir les vraies réponses. C'est ça qui consolide l'unité. Sans compter cette question d'illégitimité des institutions qui rend totalement difficile une unité nationale avec un régime qui se caractérise par l'arrogance, par la persécution des opposants, qui a un centre national dit de cyberdéfense, qui peut kidnapper des citoyens, les filmer, les humilier, les torturer.
Oui, parce que vous insistez sur l'illégitimité, n'est-ce pas, des institutions. Vous avez également participé à ces élections qui ont produit, n'est-ce pas, ces institutions. Alors, si vous estimez que le chef d'État est illégitime, comment vous considérez vos députés et sénateurs qui ont été élus à travers ces mêmes élections?
Mais tout le processus est illégitime. Sinon, nous aurions eu plus de députés et de sénateurs que ceux-là. Parce que c'est nous qui avions gagné les élections.
Mais ils sont là ici.
Mais nous avions le choix. Nous avions le choix entre boycotter totalement les institutions ou considérer que même le peu qui nous est resté était la voie que le peuple nous a donnée et qu'on n'a pas pu nous voler. Et on nous a incité à ça.
Merci.
Mais permettez-moi de répondre rapidement à deux allégations de l'honorable Makoutan.
Rapidement.
D'abord, une me concernant personnellement, où il dit, mais j'étais candidat à la CENI. Oui, j'étais candidat à la présidence de la CENI, parce que j'étais un acteur de la société civile. Mais une fois que le processus de désignation d'un ancien militant de l'UDPS a eu lieu, j'ai décidé de m'engager politiquement. Alors, il me dit, oui, mais c'est que vous démontrez une tendance. Non, c'est M. Makoutan, honorable. C'est peut-être ne pas comprendre comment fonctionne un système électoral dans notre pays. Tous les membres de la CENI ont le droit de vote. Donc forcément, ils feront un choix entre les candidats. Et les personnes qui sont là ont été désignées par des composantes politiques, sauf celui de la société civile. Mais ça n'empêche pas d'organiser des élections concrètes. Pas de participer à la tricherie.
Merci,
on vous demande pas de manquer un choix, on vous interdit de jouer pour un camp. Et maintenant, je tiens à terminer sur ce point-là avant d'attaquer la question du Katanga. Mais honorable,
on n'a pas tout le temps, s'il
vous
plaît.
Oui, mais c'est important parce qu'il m'a cité.
Non, rapidement, parce qu'on n'a pas tout le temps.
Oui. En deux, trois mots. Mais moi, j'ai déjà organisé des élections avec l'abbé Malumalu au Congo central. Elles avaient eu lieu en un jour. Nous avions nos cartes d'électeurs qui sont toujours, aujourd'hui, ineffaçables.
Et la gestion
alors
du Katanga,
que les vôtres sont des escroqueries.
Au sujet de la gestion du Katanga.
Alors, le Katanga, vous dites que sous Katumbi, il y a eu une faillite de la SNCC. Honorable, soyons sérieux. Vous gérez quand même des entreprises publiques. Vous avez déjà vu une entreprise publique de l'État, de relever d'une province? Mais pour votre gouverne, sous Katumbi, la SNC avait d'ailleurs renouvelé son charroi grâce à l'appui de la Banque mondiale.
Merci, on a compris.
Oui.
Merci. On donne maintenant la parole à l'auditeur qui nous appelle depuis Bounia dans la province de l'Ituri. Pour vous, honorable Amissi Makoutano.
Ben et Tukwala à Bounia dans la province de l'Ituri. Pour départager les acteurs politiques, nous avons des précédents dialogues. Il suffit de revisiter des formats où l'IDPS avait participé lorsqu'il était dans l'opposition et les réadapter au contexte actuel. Parce que le président Félix Tshisekedi veut tirer les choses à sa cause. Or, il fait partie des problèmes, comme ce fut le cas avec Joseph Kabila lorsqu'il était président en exercice. Toute chose égale à par ailleurs, dit-on.
Oui, honorable Amis Makutano.
Merci beaucoup. Je remercie M. Ben Tokwala par rapport à son speech. Mais ici, je dois lui rappeler que le président de la République sait ce qu'il fait en tant que gestionnaire du pays. C'est lui qui définit ce qui devrait être fait. Ensemble, avec toute la population, nous concrétisons le vœu du président. C'est ce que nous appelons une vision. À ce qui concerne les dialogues, le président n'a pas intérêt de tirer les choses en longueur. Il n'y a pas ces besoins. Mais c'est seulement dans les dires de nos compatriotes, par exemple le maître Diakissé, qui a semblé peut-être nous démontrer ses incantations ici, en oubliant même les déclarations de Kagame. Il a eu des difficultés pour citer le Rwanda. Mais c'est leur maître. Mais lui-même, le maître, a compris que les élèves à qui il a donné des responsabilités, n'assume pas valablement leur rôle. Il a fallu qu'ils sortent dans le calme et qu'ils vous expliquent concrètement quelle est la motivation du Rwanda en République démocratique du Congo. Même quand ils nous disent des causes profondes, j'ai aimé, mais c'est mal quand vous avez posé la question de savoir quelles sont ces causes. Parce que ce sont les mêmes méthodes, le même système, la même armée, le même pays qui nous agresse, qui est aujourd'hui sur le sol congolais. Donc, même les prétextes de nos prélats, SCC, Senko, ce n'est pas vrai. Il faut dialoguer parce qu'il y a des causes profondes. Mais Rwanda n'a pas dit ça. Il a clairement déclaré que c'est depuis, même avant l'avènement de Félix Tshisekedi, nous avons des problèmes et nous avons des réclamations. J'ai Goma, j'ai Bukavu. Comme vous les réclamez, vous devez aussi répondre à mes exigences. Mais tout ce monde-là qui circule, qui parle avec le Rwanda, est-ce qu'ils ne peuvent pas demander au Rwanda quelle est la réclamation que vous faites à la République démocratique du Congo? Maintenant, le président de la République, depuis le début, quand il vous a dit que cette guerre-là, c'est le Rwanda, il n'y a personne qui avait cru. Quand le pantin de Nanga est allé là-bas, le président de la République a rappelé et il a dit que l'AFC, c'est Kabila. Personne ne l'a pas crié. Aujourd'hui, il est où? C'est une complicité interne qui fait en sorte que nous puissions être fragiles. Mais c'est mal. Il faut qu'on dise à notre peuple que ça n'est de trop. Les mêmes systèmes, les mêmes méthodes qu'on se mette sur la table pour qu'on redistribue des cartes. Je crois que les temps sont révolus.
Merci.
Nous allons en parler en tant que Congolais, mais la seule des choses... Protégeons le Congo et les Congolais.
Merci Modeste Monigaba. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis le Nord Kivu.
Bonsoir Radio Kapi, c'est Akonkwa Kidri à partir de la province du Nord Kivu. Des positionnements parallèles qui se font autour d'un dialogue national inclusif ne sont pas faites dans le cadre de voir l'intérêt général du pays, mais elles se font dans une démarche de chercher soit comment garder le pouvoir, d'une part, et de l'autre part, elle vise les positionnements politiques qui vont dans le sens de la recherche des intérêts individuels tels qu'on connaît les politiciens congolais. Ils devraient d'abord mettre de l'avant l'intérêt général du pays, sinon les ennemis de la République vont profiter à travers ce parallélisme d'idées pour continuer à endeuiller le peuple congolais. Merci.
Monsieur Modeste Monigaba.
Oui, je crois que... Le problème de base, c'est faire en sorte que chaque centime dû à l'État en termes d'impôts tombe effectivement dans ses caisses et n'en sorte que pour régler seulement les vraies créances de l'État. Tout se résume dans cette phrase-là. Si la gestion du Congo reposait sur cette exigence, je peux vous assurer qu'il n'y aurait pas de rébellion, il n'y aurait pas de guerre dans ce pays. Parce que tout l'argent dû à l'État serait effectivement mobilisé et tout l'argent de l'État servirait uniquement à régler le problème que l'État doit régler. Et c'est autour de cette organisation qui doit être mise en place pour que cela se passe réellement que nous devons nous mettre d'accord.
Monsieur Modeste Mbonigaba, nous sommes à la fin de l'émission, on va commencer à conclure. Hein. Alors, qu'est-ce que vous proposerez, n'est-ce pas, pour que l'on fasse les choses de manière à ce que tout le monde, tous les acteurs, n'est-ce pas, soient d'accord? Ça sera votre conclusion.
Oui, moi j'ai compris que la CENCO et SCC ont proposé un dialogue qu'ils appellent dialogue des experts, qui serait suivi du dialogue des politiciens et de tous les autres, la société civile et tout le monde. Et enfin, un dialogue qui impliquerait aussi les voisins et tous les pays amis, entre guillemets. Donc, si on s'inscrit dans ce cheminement-là, je suis persuadé que le chemin sera balisé pour que nous puissions enfin sortir du marasme actuel dans lequel nous sommes plongés depuis, je l'ai dit tout à l'heure, depuis 60. Parce que la gouvernance du Congo n'est pas satisfaisante, c'est depuis les 30 juin 60.
Merci. Maître Régis Diakessé, votre mot de la fin?
Je pense que ce Congo est notre pays à tous. Personne n'a ni le monopole du patriotisme, ni le monopole d'exercer le pouvoir en dehors de la volonté du peuple. Ni ceux qui détiennent les armes, ni ceux qui détiennent les institutions, ne sont plus congolais que ceux qui ont refusé d'étenir les armes et qui, quand même, subissent des persécutions, des harcèlements. Donc, le moment est venu de constater l'impasse devant laquelle nous nous retrouvons. Les désespoirs de notre population et les possibilités formidables que ce pays regorge, ses richesses, sa jeunesse, pour décoller. Et pour cela, nous n'avons d'autre choix que de nous asseoir, de nous parler, de trouver des solutions. S'il y a des sanctions, de trouver des sanctions, mais d'ouvrir une autre perspective. Nous devons réaliser une chose. Les nations naissent, grandissent, mais peuvent disparaître. Aujourd'hui, presque 3 ans maintenant, nous entrons dans la banalité d'un pays divisé à deux. Il y a 2 administrations. Et nous avons encore des incantations, des gens qui encensent leur camp, alors qu'ils ont triché, de s'arroger les monopoles du patriotisme.
Merci, on a compris.
D'attribuer un narratif qui n'a aucun sens avec la réalité.
On a compris.
Ils peuvent aller négocier avec Kagame à l'étranger et revenir attaquer les autres.
Merci, Maître Hervé Diakessé. Honorable Amissi Makutano, votre conclusion.
Merci beaucoup, Monsieur Matt. Le peu de mots que je peux parler à la fin, c'est juste rappeler aux Congolais que le dialogue n'est pas une messe où on doit dérouler les tapis rouges pour les criminels. Les Congolais souhaitent la justice, la condamnation et réparation des victimes. Et donc, en tant que Congolais, nous avons le devoir de décourager de tels comportements, de faire verser le sang de nos compatriotes parce qu'on veut accéder au pouvoir. Et par conséquent, cette barbarie du Rwanda, cette barbarie de la traîtrise des Congolais puisse cesser une fois pour toutes. Et c'est ça la volonté du président et la volonté de ces dialogues prônés par le premier d'entre nous qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Maître Hervé Diakessé, honorable Amissi Makutano, et Monsieur Modeste Mbonigaba. Merci également à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé, à Paul Badjanyama et à Alain Ngoy qui étaient à la technique. La présentation, Guy Maté. Merci encore et bonne suite du programme sur Radio Capi.